en Europe. Partout où tu seras, défends notre cause. Donc il arrive en 2008 en Hollande et il dit que même s'il est confortablement installé dans un petit village hollandais, que la convivialité qu'il y avait malgré tout, l'entraide qui existait entre les migrants et les migrantes lui manque beaucoup. Et il ironise sur le fait qu'il existe aux Pays-Bas un parti politique appelé Parti des animaux, qui est représenté au Parlement, mais qu'il n'y a pas de parti des droits des migrants et migrantes. Il fait connaissance avec des personnes âgées hollandaises, mais dit que, en contraste avec la situation qui existe au Congo, les personnes âgées en Europe sont laissées à elles-mêmes. Il précise ensuite qu'il a bien essayé de faire venir sa famille, mais que le regroupement familial est devenu quasiment impossible. Je cite, on impose des conditions aussi drastiques que possible afin de décourager les demandes. Ainsi, les Pays-Bas exigent de l'étranger résident qui peut faire venir sa famille un contrat de travail stable et un salaire au-delà du minimum garanti, comme si tout le monde ne savait pas que les migrants travaillent pour la plupart dans les conditions les plus précaires avec des salaires de misère. J'ai déboursé pas moins de 3 000 euros pour réunir tous les papiers. À la demande du Conseil néerlandais des réfugiés, ces documents ont ensuite été envoyés aux Pays-Bas par l'ambassade via la valise diplomatique. Ils ne sont jamais arrivés. J'ai dû recommencer toute la procédure, faire produire les nouveaux documents et les faire certifier par les ministères des Affaires étrangères, de la justice de mon pays, puis à l'ambassade des Pays-Bas qui me soutire encore 300 euros en frais de certification. Craignant de perdre à nouveau le dossier, j'eus cette fois recours à une entreprise de messagerie privée, ce qui engendra des frais supplémentaires. Mais tous ces efforts et plus de 5 000 euros dépensés au total ne servirent à rien. La demande fut rejetée pour des raisons obscures que seule la bureaucratie de l'immigration est capable de soutenir. Voilà, donc ça montre bien, contrairement à une idée répandue par l'extrême droite et jusque dans la population, que le regroupement familial est loin d'être une sinécure et qu'en réalité c'est la croix et la bannière pour réussir à faire venir ses proches en Europe. Voilà, malgré des dépenses très importantes, et il précise dans une note de bas de page, plus largement, la délivrance des visas par les ambassades des États de l'Union européenne est devenue un juteux business, finalement pas si éloigné par sa nature de celui des passeurs. Des dizaines de milliers de demandes sont enregistrées puis rejetées. Seules quelques-unes seront acceptées. Toutes auront pourtant engendré de multiples frais qui vont du traitement de dossier à la légalisation des documents exigés, en passant par ceux exigés par la personne invitante, par l'administration de son pays. Lorsque le visa est refusé, rien n'est jamais remboursé. Outre ces dépenses, il faut aussi compter avec les maltraitances infligées aux demandeurs de visa par les services consulaires. Donc là, on voit que l'auteur, Emmanuel Bolella, déchante très vite de l'Europe. Il raconte alors le moment où il a trouvé du travail, et ça illustre bien, même si le cas est en Hollande, la réalité du travail pour le coup, des réfugiés légaux qui ont bénéficié de l'asile politique. Je cite. Je finis tout de même par trouver une place dans une entreprise de traitement de déchets. Ce n'était pas tout à fait un hasard. Cette société embauchait avant tout des étrangers, polonais, somaliens, marocains, algériens ou surinamais. Le travail s'effectuait dans des conditions hygiéniques déplorables, susceptibles de provoquer toutes sortes d'infections. Le premier jour, on me donna en guise de tenue de travail un petit blouson à manches courtes. Ce blouson dégageait une odeur indescriptible et était maculé de taches de déchets. Il n'avait jamais été nettoyé. Le petit masque pour le nez était déjà sale avant la pose, mais on nous obligeait à garder le même 3 jours durant. Les gants étaient percés de petits trous qui laissaient entrer certains déchets fluides, alors que ces derniers étaient toxiques. Ce premier jour de travail, de 6h30 à 15h, j'eus la nausée à tel point que je ne pus rien manger ni boire pendant la pause. Que je revins à la maison, tout mon corps me démangeait, mes habits puaient les déchets. Je tentais malgré tout de me faire à ce travail. J'espérais m'habituer comme les autres. Cependant, au bout d'une semaine seulement, je commençais à éprouver de fortes difficultés respiratoires. Nombre de mes collègues avaient le même problème. La rémunération était tout aussi médiocre que les conditions de travail. Par-dessus le marché, je n'avais même pas signé de contrat car, selon les règles établies par cette entreprise, on ne pouvait le faire qu'après avoir travaillé 3 semaines. Et encore, la durée du contrat n'excédait pas 3 mois, renouvelable une semaine seulement. Allais-je seulement tenir 3 semaines et si je signais le contrat, serait-il renouvelé? Je retournais ces questions dans ma tête comme la plupart de mes collègues. Cette incertitude et les conditions de travail nous rendaient tous très nerveux. Un collègue, par exemple, n'y tenant plus, ne cessait d'insulter le chef en lui attribuant tous les noms d'oiseaux possibles. Ensuite, il explique qu'il essaye malgré tout de trouver un autre emploi et que le seul emploi qu'il trouve, c'est finalement un travail sur appel téléphonique dans une société d'achat, de vente et de conditionnement de fruits et de légumes. Et donc il précise, on est prévenu au dernier moment par téléphone de quand on doit travailler, ce qui rend les employés prisonniers de leur portable. Donc là, on est vraiment au cœur de la condition de prolétaire du 21e siècle. Et donc il dit, 99% des salariés étaient des immigrés d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud. Donc il dit qu'il s'occupe du chargement et du déchargement de très lourdes caisses, et que donc c'est épuisant, et qu'à 20h, le soir donc, il n'y avait toujours pas de nourriture pour la pause. C'est une entreprise qui fonctionne avec des objectifs de production, ce qui fait que tant que les objectifs de production ne sont pas atteints, la journée de travail ne s'arrête pas, et donc il ne s'arrête qu'à 22h30. Et il explique, le lendemain dimanche, je me réveillais à 5h pour être à 8h30 au travail. On recommença. Nous devions atteindre le nombre de palettes prévues. Cela dura jusque 20h30. Ce jour-là, le chef ne voulut pas commander de nourriture. Donc voilà, ce qui fait quand même 12 heures de travail avec une petite pause au milieu. Voilà. Alors il parle du patron. Le patron, qui nous épiait par-dessus ses lunettes et donnait des ordres, à la manière des colonisateurs d'antan, mettait tout le monde en colère. Un jour, il renvoya à la maison tout un groupe de personnes qui travaillaient à la chaîne, au seul motif qu'elles causaient pendant le travail. Un jour, alors que nous étions assis à la cantine, après toute une semaine de travail de nuit, un de nos collègues lança cette boutade. Ce travail vraiment, j'ai bossé toute une nuit, la nuit, et je pensais qu'aujourd'hui, en consultant mon compte bancaire, les enfants allaient sourire, mais les enfants ont pleuré aujourd'hui. Un autre collègue indigné prit le relais. Moi, si on me demande encore de travailler la nuit, je n'accepterai plus. Comment expliquer que j'ai non seulement travaillé 5 nuits, mais encore le dimanche pour finir avec un salaire de misère? Donc évidemment, le même jour arrive un SMS de la direction. Merci tout le monde, cette semaine la prestation fournie a été au top. Il y a plus de 175 000 paquets de soupe de tomates. La plus grande action jamais réalisée. Un ami congolais lui fait une confidence qui montre bien le décalage. Même si c'est un peu exagéré comme témoignage, mais qui montre bien un peu le décalage entre l'idéologie qui est vendue, c'est-à-dire la mise en spectacle par l'Occident de lui-même comme étant une espèce d'Éden d'abondance, et la réalité de là-bas. Donc le témoignage, c'est: Tu vois comme nous travaillons, mais nos frères restaient au pays, quand tu leur envoies de l'argent, au lieu de l'investir, ils l'avalent comme des petits pains, croyant qu'en Europe, on ramasse l'argent à l'appel. Et l'auteur commente: Cette vision d'une vie facile ici qu'ont nos frères et sœurs en Afrique résulte de l'impression que les anciennes migrants, migrantes, donnaient lorsqu'ils rentraient au pays pour les vacances. Il fallait toujours montrer qu'on avait réussi, car montrer l'échec était une honte. Mais le principal demeure cette persévérance des migrants migrantes à être solidaires avec leurs familles restées au pays en les soutenant financièrement. Donc ensuite, il précise que évidemment ça a un impact économique très important, l'envoi de fonds par les migrants à leurs familles restées au pays. Mais c'est important, voilà, de préciser cette espèce de décalage qui existe et finalement où personne ne peut vraiment dire la vérité, l'Occident ne peut pas dire la vérité. Et d'un autre côté, les migrants et migrantes non plus sur la réalité de leurs conditions, même à leurs proches. Et donc il dit, oui, l'Europe représente pour nous, migrants et migrantes, un combat quotidien. Et ensuite, il rencontre des activistes qui s'organisent autour des No Border Camps, des contre-sommets et tout ça. Donc il rencontre une partie de l'altermondialisme radical. Il participe à des festivals, à des manifestations diverses. Il dénonce également la politique qu'a adopté l'Union européenne après la crise libyenne de 2011, où des milliers de personnes sont mortes entre la Libye et l'Italie. Il raconte également son engagement dans des mouvements de défense des droits des migrants en Afrique. Il retourne en Afrique, au sud de la Tunisie. Et c'est ce qui a motivé l'écriture du livre dont on parle aujourd'hui. Donc il fait un peu le bilan de cette lutte. Grâce à notre lutte, les autorités marocaines ont accepté depuis 2013 que les enfants migrants et migrantes soient admis dans les écoles publiques. Mais cette décision reste souvent lettre morte, car leurs parents n'ont pas les moyens de leur acheter les fournitures scolaires, de payer les transports, ni même de leur acheter à manger. C'est pourquoi nous avons mis en place un projet de parrainage pour l'intégration des enfants dans les écoles marocaines. Lors de différentes rencontres que j'ai organisées avec des parents au Maroc, nous avons compté plus de 400 enfants en âge de scolarisation mais qui ne fréquentent pas les écoles. Leur avenir est compromis. Je fais mienne cette phrase de Malala Yousafzai, cette jeune femme afghane qui lutte pour le droit à l'éducation. Avec les armes, on peut tuer les terroristes, mais avec l'éducation, on tuera le terrorisme. L'éducation et la formation doivent faire partie intégrante de la lutte contre la terreur. Si on veut lutter contre la terreur, contre le phénomène des enfants soldats, contre l'abandon des enfants de la rue, on doit impérativement passer par la scolarisation et la formation des enfants. Alors après, c'est un peu limité comme diagnostic, puisque y a pas mal de terroristes en réalité qui ont une éducation assez élevée, hein, notamment parmi les hauts cadres. Donc c'est peut-être un peu simpliste de croire que l'éducation va résoudre le problème du terrorisme, qui est un problème beaucoup plus global, qui est lié à la société capitaliste, à la crise de la société capitaliste, et aux idéologies qui refont surface en temps de crise. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, après avoir dit beaucoup de bien des églises pendant son périple, quand même, il a fait un petit paragraphe critique. Je cite: Aujourd'hui, dans mon pays, on trouve à chaque coin de rue une église dont le pasteur prêche l'évangile du colonisateur avec ses deux énoncés de base. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient, ainsi que tout pouvoir vient de Dieu. Non contents de s'enrichir sur le dos de leurs ouailles, qu'ils pressent d'apporter toujours plus d'offrandes afin d'obtenir la bénédiction divine, ces mauvais bergers, qui leur recommandent en outre de laisser les dirigeants du pays tranquilles parce que leur pouvoir vient de Dieu, n'hésitent pas à stigmatiser les enfants des rues qu'ils traitent de sorciers et auxquels ils attribuent la responsabilité de la misère de leurs parents. Voilà, il parle un petit peu de la situation au Congo, qui ne s'améliore pas. Qui ne s'est d'ailleurs toujours pas amélioré depuis l'écriture de ce livre. Épilogue. Le baobab, un abri pour les femmes migrantes. L'ouvrage termine ainsi. J'espère que ce livre contribuera un tant soit peu à faire entendre la voix des sans-voix et à mobiliser encore plus de monde pour interpeller les décideurs sur les conséquences dramatiques de leur politique xénophobe et sécuritaire. Grâce aux rencontres organisées autour de l'édition allemande de ce livre, nous avons pu concrétiser un projet qui nous tient à cœur, une maison pour les femmes migrantes à Rabat. Donc pour leur éviter l'exploitation sexuelle, les violences et tout ça. Alors peut-être qu'on pourra relever une nouvelle fois une certaine naïveté de l'auteur qui pense qu'on peut interpeller les décideurs sur les conséquences dramatiques de leur politique xénophobe et sécuritaire. En réalité, je pense que les décideurs le savent bien et que leur problème n'est pas là, qui ne résonne pas en termes humanitaires mais en termes capitalistes, étatistes, de gouvernement, de gouvernementalité. Et de manière générale, cet ouvrage, qui est un témoignage assez fantastique sur la condition de migrants, migrantes et de réfugiés, manque peut-être un petit peu de profondeur d'analyse sur ce qu'est le phénomène de la migration depuis au moins 30 ou 40 ans. Même si c'est un phénomène en réalité assez ancien dans le capitalisme, qui est que les gens des périphéries les plus pauvres émigrent vers les centres et ils y sont généralement poussés par les ravages que provoquent les mêmes centres dans ces périphéries, que ce soit par la politique étrangère, mais aussi tout simplement par les effets de la crise du capitalisme, par l'échec des modernisations de rattrapage, par les désastres liés au dérèglement climatique d'origine capitaliste, c'est pour ça qu'on parle de capitalocène, et ce qui fait que par exemple Robert Kurz disait que au fond migrants et réfugiés il n'y avait pas une grande différence puisqu'en fait c'était les victimes de différents aspects des mêmes ravages du capitalisme mondial. Parfois de leurs effets politiques pour les réfugiés, parfois de leurs effets économiques, parfois de leurs effets écologiques et climatiques, parfois de leurs effets en termes de politique de développement, etc. Et je pense que c'est important, voilà, de dire que, pour conclure, que les migrants ne sont pas, comme veut le faire croire l'extrême droite, l'arme du capital, mais qu'en réalité, ils en sont les principales victimes et qu'ils ont donc tout à fait légitime à tenter d'échapper à l'enfer que leur réserve le capitalisme dans leurs périphéries qui sont des points qui concentrent tous les ravages que cause le capitalisme à l'échelle mondiale. Donc, on recommandera chaudement, pour voilà, avoir une idée de ce qu'est la condition de migrants et migrantes, ce livre d'Emmanuel Bolella, Réfugiés, une odyssée africaine, paru aux éditions Libertalia en 2017.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.